Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
L'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'apérophonie. Et ce soir, nous accueillons Catherine Pounardjian, que je n'écorche pas votre nom, de l'association Arménie Échange et Promotion. Comment ça va?
Ça va bien, je vous remercie et bonjour à tous.
Alors, vous êtes là parce que vous avez des événements, l'association a des événements qui arrivent prochainement. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'association?
Oui, alors notre association qui s'appelle Arménie Échange et Promotion est une association qui a été créée à Grenoble en 1990, donc qui a déjà un certain vécu, dirons-nous. Et donc, cette association a pour but de développer la francophonie en Arménie. Et c'est ce qu'elle fait depuis donc, sa création. Et nous avons ouvert à Erevan, qui est la capitale de l'Arménie, en 1992, un centre de formation à l'enseignement du français. Donc, c'était à l'origine un centre spécialisé dans l'enseignement du français et ouvert aux adultes. Aujourd'hui, c'est un peu différent, on y enseigne différentes langues, notamment en plus du français. Et c'est un peu moins important, bien sûr, l'anglais, bien qu'il y ait beaucoup de demandes, mais on reste focalisé sur la langue française. Donc il y a des cours d'anglais, il y a des cours de russe aussi, et puis des cours d'arménien, puisque en Arménie, il y a un certain nombre d'ambassades et d'organismes internationaux qui sont installés dans le pays. Donc il y a des besoins aussi en langue arménienne. Et on diffuse nos cours d'arménien également auprès de gens intéressés dans le monde entier par Zoom. Donc voilà, il y a des gens un peu de partout qui ont envie d'apprendre l'arménien. Et là, je préciserai l'arménien oriental, oui. Puisque dans la culture arménienne, il y a deux langues. La langue arménienne occidentale qui a été parlée essentiellement par les Arméniens de Turquie, ceux de Syrie, d'Irak, du Liban, et l'arménien oriental qui est parlé aujourd'hui en Arménie ex-soviétique et en Iran.
Okay.
Donc ça, c'est l'objet principal de l'enseignement du français. Et dans ce cadre-là, nous sommes aussi l'opérateur technique pour la francophonie de la ville de Grenoble et du département de l'Isère. Ces deux collectivités mènent depuis 2008-2009 des actions de coopération décentralisée en Arménie, en développant donc la francophonie, mais aussi ils apportent une aide médicale à l'Arménie. Ils agissent aussi dans le cadre du tourisme et développent depuis quelques années des actions au niveau culturel, d'échanges culturels.
Ouais, c'est très rempli.
Oui, 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 ça c'est le versant Arménie, mais on a aussi le versant France.
Ah bah, c'était ma question, vous m'avez devancé, mais allez-y.
Donc du côté France, on fait ce qu'on appelle le retour sur le territoire. C'est-à-dire qu'en compensation de la francophonie qu'on développe en Arménie, on développe aussi en France des différentes actions pour présenter l'histoire et la culture arménienne. Et dans ce cadre-là, on organise des conférences, des rencontres, des films, des spectacles. Et je dois dire, on organisait, parce que, comme beaucoup d'associations, on a avant et après le Covid.
Ouais.
Ce qui fait que, avant le Covid, on organisait toutes ces actions, toutes ces manifestations. Il y a eu un temps d'arrêt avec le Covid qui nous a été un peu fatal. Oui, comme beaucoup d'associations. Et vraiment, on a du mal à repartir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on repart, mais différemment de ce que l'on faisait avant. Mais on reste toujours dans le milieu historique et culturel.
Quel était à l'origine l'objectif de ces centres en Arménie?
Alors l'objectif, au tout début, l'idée m'est venue à moi personnellement, puisque en 1988, il y a eu le tremblement de terre en Arménie,
vous
en décembre.
Expliquer, raconter un peu le tremblement de terre pour les non-initiés.
un tremblement de terre, donc, non, mais, vous voyez ce que c'est. Donc, le 7 décembre 1988, il y a eu un tremblement de terre très, très important en Arménie, qui a fait environ 100 000 victimes, plus énormément de blessés, de gens déplacés et autres. Donc, à cette période-là, moi-même, je suis partie d'abord avec SOS Arménie dans le cadre d'une aide humanitaire et d'apporter un soutien. Et puis, à partir du mois d'août, du 1er août 1989, je suis partie en tant que coordinatrice de la mission de Médecins du Monde. Et à ce moment-là, je suis restée un an et demi en Arménie, ce qui m'a permis d'apprendre l'arménien oriental, comme on disait tout à l'heure, et puis de connaître mieux le pays ex-soviétique. Donc, il y avait aussi un état d'esprit à approcher et qui m'a permis de monter ce projet, d'essayer de faire un lien entre ce que je voyais sur le terrain, les besoins de la période et nos compétences en France. Et en 89, 90, on est encore dans la période soviétique. L'indépendance de l'Arménie date de 1991, au moment quand le mur de Berlin a été détruit et l'ouverture sur les différentes républiques de l'Union soviétique de l'époque. Donc, c'était dans ce contexte-là. Et j'ai pu monter un projet qui nous paraissait à nous important, avec les membres de l'association que nous avons créée pour l'occasion, parce que l'Union soviétique était fermée sur elle-même. C'était la première fois que l'Union soviétique acceptait l'aide humanitaire extérieure pour venir secourir les personnes touchées par ce tremblement de terre. Donc c'était vraiment une toute première. C'était l'époque de Gorbatchev. Et l'Arménie est un tout petit pays, enclavé, donc aucun accès à la mer, avec au nord la Géorgie, à l'est l'Azerbaïdjan, au sud une frontière toute petite mais importante, très importante pour l'Arménie, avec l'Iran, qui est une ouverture sur l'extérieur, et à l'ouest la Turquie. Donc étant enclavé, il nous a paru important que la connaissance des langues pouvait être un plus pour la population. Et c'est comme ça qu'on s'est dit que l'enseignement du français était un élément fondamental pour créer un pont entre l'Arménie et la France, mais aussi les autres pays francophones.
Oui, ok. Et comment s'est fait cette évolution de l'association ?
Alors au tout début, quand on a créé ce centre de formation qui s'appelle France Formation Internationale, aujourd'hui qui s'appelle ainsi, en 1992, on a eu la très grande chance d'ouvrir ce centre en même temps que l'installation de l'ambassade de France à Erevan, en Arménie. Et très rapidement, l'ambassade de France s'est aperçue que les Arméniens connaissaient bien l'arménien, le russe, mais très peu l'anglais et pratiquement pas le français. Et que là se posait un problème dans la coopération entre la France et l'Arménie, puisqu'il n'y avait pas de langue vraiment de communication, si ce n'était le russe. Et nous venions d'ouvrir, nous avons ouvert le même mois, au mois de mai 1992. Et l'ambassadeur, qui était l'ambassadrice, qui était à l'époque France de Harting, a tout de suite vu l'intérêt d'un centre de formation français installé en Arménie avec des méthodes modernes de communication. Elle a tout de suite vu l'intérêt et nous a proposé des groupes. Et c'est ainsi qu'on a commencé avec le ministère, les différents ministères de l'économie, des finances, avec le Parlement, avec le service des douanes, vraiment avec toute la structure politique du pays pour leur permettre d'accéder au texte français, enfin écrit en français, et de coopération entre les deux pays. Donc ça, ça a été un très très grand coup de pouce, et ayant apporté une nouvelle méthode d'enseignement, on a eu un très grand succès. Par contre, on a été confronté immédiatement aux problèmes politiques de l'Arménie, puisqu'en 1992 commence la guerre. Entre cette guerre qu'on appelle Première Guerre, mais il y en a eu d'autres avant, malheureusement, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Première guerre de la République indépendante arménienne de 92 à 94. Et là, les conséquences de cette guerre, pour nous, en tant que centre de formation, c'est que pas d'électricité, pas d'eau, de l'électricité 2 heures par jour, mais à des heures très farfelues, parfois en pleine nuit, pas de chauffage. Il fait moins 20 en Arménie en hiver.
Oui.
On venait d'ouvrir. Les garçons étaient réquisitionnés pour aller à l'armée et aller sur les frontières. Donc, en grande difficulté. Mais malgré ça, on n'a jamais fermé parce qu'on sentait que sur le plan moral, enfin sur le plan de soutien moral, c'était fondamental. Donc, on a continué. Et aujourd'hui aussi, malgré les problèmes politiques qui peuvent continuer à exister, que le pays voisin qui est l'Azerbaïdjan, on continue à enseigner chaque jour sans aucune exception.
Et ça perdure toujours comment ça...
Le centre de formation existe toujours. Donc, on l'a ouvert à d'autres régions que l'Arménie, pardon, que la Yerevan, excusez-moi.
Ouais,
un petit coup de santé de tout le monde, un petit goût d'eau. Donc... on a ouvert nos cours non seulement à Erevan, mais en région, dans la région du lac Sevan.
Okay.
C'est la région avec laquelle la ville de Grenoble et le département d'Isère mènent des actions de coopération. Donc on a ouvert nos cours en 2008 dans la région. Mais avant ça, à partir de 1999, dans l'évolution de notre travail, on enseignait également à Vajdenis, qui était en lien avec la ville de Romans. Et puis aussi à partir de 2003, avec la ville de Vienne, dans leur relation Goris-Vienne.
Ah, oui.
Et donc on a enseigné pendant 3 ans dans cette ville.
Okay.
Donc c'est une évolution qui se fait au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des besoins que l'on peut établir sur le terrain, mais aussi des demandes que l'on peut recevoir autant en France qu'en Arménie.
Après ce petit historique de l'association, enfin petit, même grand historique, merci beaucoup. Je pense qu'on peut s'accorder une petite pause musicale.
Thank you.
Nous sommes de retour sur Radio Campus Grenoble 90.8 et la pause musicale, c'était Lamento de David, et je vais écorcher son nom.
Aroutounian.
Voilà, merci beaucoup.
Qui est un musicien d'origine arménienne et qui vit à Paris.
Ouais, c'est ça. Et donc, on peut en venir à certains de vos événements, notamment votre spectacle qui a déjà commencé à se dérouler en 2023. C'est le spectacle sur Smyrne. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu ?
Oui, alors comme je disais tout à l'heure, il y a avant et après le Covid. Donc actuellement, dans les changements, on consacre notre temps à des conférences en général et à la création de spectacles, et notamment donc celui-ci qui tourne depuis 2023. Le titre, c'est « Il était une fois Smyrne » ou « L'identité d'une ville ». Et Smyrne est l'actuel Izmir en Turquie. Oui. Donc, pourquoi avons-nous choisi ce thème ? Parce que ce spectacle est entré dans la programmation générale de la commémoration du centenaire des événements que les Grecs appellent la Grande Catastrophe de 1922, où il y a eu énormément de morts et de gens, les rescapés ont été exilés.
Oui.
Donc... voilà, c'était un événement important et la fin de la guerre gréco-turque. Les Grecs appelant cet événement grande catastrophe, ils ont voulu faire cette commémoration et nous ont demandé de participer. En fait, ils nous ont demandé, nous en tant qu'association arménienne, on n'est pas directement concernés par l'importance de cet événement, mais malgré tout touchés. Puisque, à l'époque, les Arméniens de Smyrne ont subi les mêmes événements que les Grecs. Et ils connaissaient cette existence parce qu'en 2015, qui était le centenaire du génocide, cette fois-ci des Arméniens, de 1915, donc en 2015, j'avais déjà réfléchi et proposé une création qui s'appelait Smyrne, nous nous rendions souvent visite. Et c'était beaucoup plus centré sur l'Empire ottoman. Et puis ensuite, avec une partie musicale, avec des extraits de films, des vidéos, voilà, de la musique, des danses aussi à l'époque. Ça, c'était en 2015. Et la communauté grecque se souvenant de cet événement, nous ont demandé de le reprendre pour 2022, puisque ça s'est passé en 1922. Bon, reprendre les choses, c'est pas toujours marrant. On aime bien de la création, d'avoir quelque chose de nouveau, tout ça. Ça a demandé un certain temps pour se mettre en route. Et on a fini en septembre par trouver un scénario sur lequel j'ai travaillé, trouver des textes, imaginer le déroulement. Et en fait, je suis partie d'événements familiaux, puisque mes grands-parents étaient originaires de Smyrne, qu'une partie de la famille, et notamment les hommes, ont été massacrés à ce moment-là, donc sont restés à Smyrne, dans l'Empire ottoman. Et les enfants et les femmes ont été évacués après cet énorme incendie qui a brûlé l'ensemble de la ville. Donc, je suis partie sur cette idée de souvenirs familiaux qui rencontraient bien sûr les souvenirs d'autres personnes, notamment de Grecs et Arméniens habitant la région et l'agglomération, pour faire un lien avec l'événement historique et les archives, les documents d'archives qu'on a pu trouver. Et tout ça est agrémenté à nouveau de musique grecque, le rebetiko, la musique arménienne, de danse grecque et arménienne, de chants, de vidéos. Et puis, bien sûr, on a des conteurs qui sont là et qui racontent l'histoire de Smyrne, notamment en septembre, où on présente d'abord la ville, telle qu'elle était, une ville extraordinaire. C'était un port de la route de la soie, c'était très très riche, on y parlait plus de 40 langues, il y avait des gens de tous les pays, enfin c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, bien plus actif que qu'Istanbul à l'époque. Donc Smyrne, c'était aussi la culture, il y avait un théâtre qui s'appelait Le Petit Paris, il y avait des cafés, c'était un mélange de l'Orient et de l'Occident. Donc, quelque chose de très particulier que l'on présente dans le spectacle. Et puis ensuite, on commence à partir du 1er septembre 1922 à raconter plus l'événement historique. Événement historique qui fait suite à la fin de la guerre gréco-turque qui a démarré en 1919 jusqu'en 1922. Et là, on parle de l'arrivée de Mustafa Kemal. Avec son armée turque dans la ville, avec l'incendie, un incendie phénoménal à Izmir et à Smyrne. Donc, et ma grand-mère disait que ce jour-là, il y avait, le feu a pris en fait dans le quartier arménien. Et ce jour-là, il y avait un vent, elle disait, c'était un vent terrible. Et donc, le feu s'est propagé dans le quartier grec, et a ensuite a brûlé pratiquement toute la ville, la basse ville sur les hauteurs, ça a pu être préservé.
Oui, c'était assez catastrophique.
Oui, c'était assez énorme. Les femmes et les enfants et les personnes âgées sont restées sur le quai une dizaine de jours, puisqu'il y avait interdiction pour les alliés de venir apporter leur soutien à ces personnes démunies. Les hommes de 18 à 45 ans ont tous été arrêtés, d'abord mis dans des casernes, puis ensuite, on ne sait pas trop ce qu'il est arrivé avec eux, mais sans doute ils ont été exécutés, puisque personne n'est revenu de cette déportation de ces hommes, et les femmes, les enfants ont surtout été secourus vers la Grèce. Mais suivant sur le bateau, quel bateau on montait, on allait, on ne savait pas trop où. Donc certains, la famille par exemple de mon père, sont arrivés à Salonique. Et la famille de ma mère au Pirée. Et puis d'autres dans d'autres sur les îles grecques. D'autres sont partis directement vers le Venezuela, les États-Unis ou même la France.
Et pour revenir au spectacle. En quoi ce genre d'événement culturel est important pour vous, pour transmettre l'histoire ?
Alors pour nous, c'est un témoignage de la mémoire, et c'est un positionnement de la mémoire et de la transmission. Comment, aujourd'hui, un siècle après, cette culture est encore survivante ? Le rebetiko, par exemple, la musique grecque, elle est très vivante et très présente en Grèce. Pas les premières années, hein, après 1922, mais ça s'est développé dans les années 30 et puis après vraiment pris une ampleur. Et aujourd'hui, c'est encore très, très vivant chez le peuple grec. C'est une musique qui s'est développée à Smyrne, dans les cabarets, dans le port. Alors, ça raconte différentes histoires. Voilà, et c'est une musique grecque, mais aussi orientale, et inspirée de la musique turque également, puisque c'est le pays dans l'Empire ottoman où cette musique s'est développée. Et beaucoup de musiciens arméniens ont participé à ces groupes grecs. Donc, pour nous, c'est quelle est la position de la mémoire et de la transmission ? Est-ce que ça a du sens aujourd'hui ? C'est quelque chose que l'on porte en soi, une histoire qui nous a été racontée par les parents, mais qu'en faire ? Donc, on a voulu le partager avec le public, montrer que même un siècle après, les différentes générations portent encore cette histoire et la culture qui a façonné nos aïeux, et comment il y a eu la survivance dans les familles, avec notamment les plats culinaires, des recettes bien particulières qu'on retrouve facilement dans les familles grecques et arméniennes, et puis d'ailleurs d'autres nationalités aussi. Voilà, pour nous, c'était vraiment cette question, qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire, de cette transmission aujourd'hui, on est né en France et un siècle après les événements. Donc, voilà, faire connaître l'histoire et partager un temps culturel avec le public.
Et pour faire bien comprendre à nos auditeurs, vous pouvez expliquer pourquoi les Arméniens, même ceux qui sont nés en France et qui connaissent même de loin l'Arménie, portent en eux cette histoire et cette mémoire.
En fait, au moment du génocide, donc de 1915-1916, peu d'Arméniens, les rescapés, ne sont pas venus tout de suite vers la France. Ils sont venus beaucoup plus tard, dans les années 20, dans les années 25, 30. Ma famille est arrivée en France dans les années 29. Et en fait, ayant subi un génocide, dans le génocide, ce n'est pas simplement des personnes qui sont tuées, qui sont déportées, mais c'est aussi une perte de territoire, une perte de patrimoine, d'abord personnel, des maisons, du bétail, du terrain. Les Arméniens ont été spoliés de tous leurs biens et de leur culture, de leur langue. Il y a eu un temps d'arrêt et un couperet. Qui est arrivé avec ce génocide, comme pour d'autres génocides aussi. Et les Arméniens qui ont survécu, que leur restait-il à part une manière de vivre, une langue, des plats, comme je disais tout à l'heure, certaines spécialités. Ils se sont raccrochés, en fait, à cette culture. Et dans les familles, on parlait arménien, parfois on parlait turc aussi chez nous, on parlait turc puisque les familles étaient turcophones très souvent. Et on parlait le grec, le turc, l'arménien, toutes les langues se mélangeaient. Et au bout d'un moment, les enfants se demandent aussi, il y a comme un défaut quelque part, on vit en France, on n'est pas comme nos copains, nos copines, pourquoi, comment? Et au fur et à mesure, voilà, on se pose des questions et on essaye de reconstituer une histoire comme on peut. Pour essayer de comprendre en fait pourquoi il y a des gens qui notre famille est arrivée en France et qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Et inconsciemment, les parents et les grands-parents ont transmis des choses malgré eux. Et les enfants vivant dans cette ambiance ont été imprégnés aussi de cette manière de vivre. Alors aujourd'hui, quatrième, cinquième génération après le génocide, les enfants, les petits, alors, ont déformé les mots, ont déformé les noms. Par exemple, il y a des
les
noms.
Syllabes, de... les...
Voilà, c'est très...
Les sons, les... Ouais.
Mais voilà, ça reste quand même présent. Et ça serait intéressant qu'un sociologue s'intéresse à cette question.
Ou un linguiste même.
Plus d'un siècle après l'événement, qu'est-ce qui reste de ce traumatisme? Parce que voilà, beaucoup de gens ont été traumatisés par l'événement, ont transmis leur traumatisme. Et il a fallu beaucoup travailler pour se libérer de tout ça et développer une association en lien avec l'Arménie. Aujourd'hui, qui n'est pas la même, qui est celle de l'Union soviétique, c'était un moyen pour moi, personnellement, de dépasser le traumatisme et les événements douloureux vécus par la famille.
Et donc, ce spectacle, on peut le voir le 10 mars.
Alors, il y a une prochaine représentation, oui, qui est prévue le dimanche 10 mars à 17h. Alors, ce ne sera pas à Grenoble et l'agglomération, mais à Pontcharrat. Oui, peut-être nos éditeurs connaissent des gens qui habitent dans cette région. Et puis, il y a aussi la Savoie à côté, la Haute-Savoie qui n'est pas loin. Donc, il sera présenté dans le cadre d'un soutien qui est apporté aux Arméniens réfugiés du Haut-Karabakh. Et cette action est menée par une paroisse locale à Pontcharrat et soutenue par des chrétiens d'Orient.
On a parlé de la langue qui restait malgré les années en France. et dans d'autres pays. Je pense qu'on peut écouter Lada Niva.
Arevita.
Écoutez bien Campus Grenoble sur 90.8 et nous sommes dans l'apérophonie avec Catherine Pounardjian de l'association Arménie Échange et Promotion. J'ai oublié le nom du spectacle précisément.
Il était une fois Smyrne.
Je confondais ouais. Avec celui de 2015.
Ah oui.
Donc voilà, pour revenir à Il était une fois Smyrne, vous voulez essayer de trouver des salles dans Grenoble, c'est ça?
C'est-à-dire que, oui, on a déjà fait 6 représentations. Une à la Maison des Associations de Grenoble, une autre présentation à la Maison de l'International, au mois de mai dernier. On est allé aussi à l'association AMAL de Grenoble, qui regroupe différentes associations en lien avec le Maghreb. Dans la communauté hellénique, également, pour présenter ce spectacle. À l'Union de quartier, De Saint-Martin-d'Hères. En fait, Saint-Martin-d'Hères, il y a un quartier qui s'appelle la Croix-Rouge. Et à l'époque, dans les années 30, 25, 30, on l'appelait la Petite Arménie. Ah. C'est le quartier qui a reçu ces immigrés arméniens en nombre. Mais il y avait aussi, bien sûr, les Grecs de Smyrne, notamment, qui étaient là. Et des Italiens, des Grecs, des Espagnols de l'époque. Hein, voilà, il y avait l'entreprise, l'usine de fabrication des biscuits bruns.
Oui.
Donc, ça donnait du travail. Voilà, c'était juste à côté, ce qui fait que beaucoup d'émigrés vivaient là. Et à l'époque, la France s'était portée terre d'accueil pour les étrangers après la guerre, la Première Guerre mondiale, 14-18, qui fait 20 millions de morts. Donc, il y avait besoin de main-d'œuvre. Et beaucoup d'étrangers sont arrivés dans les années 30. Voilà. Donc, on l'a présenté à l'Union de quartier Croix-Rouge. Et la dernière représentation que nous avons faite, c'était en décembre, le 1er décembre 23,
oui.
À Bourgoin-Jallieu, dans une structure qui s'appelle Vision du Monde, qui est une agence de voyage solidaire. Ils organisent des voyages, entre autres, bien sûr, pas que l'Arménie. Donc, ils organisent des voyages en Arménie et sur leur tarif, ils consacrent 3% du tarif à soutenir différentes actions solidaires en Arménie pour installer des chauffe-eau, pour aider, pour faire des travaux, pour améliorer l'habitat. Voilà. Donc ça, c'est Vision du Monde à Bourgoin. La prochaine fois, on sera donc, comme je disais tout à l'heure, le dimanche 10 mars à 17h dans l'église de Pontcharra. Et voilà, on est ouvert à toute proposition pour montrer ce spectacle sur Smyrne, mais qui est un spectacle sur un événement historique qui touche l'Asie mineure et l'Empire ottoman, la fin de l'Empire ottoman.
Mmh. Et donc, vous avez écouté la Daniva tout à l'heure, un groupe cosmopolite, on va dire, parce que la chanteuse... vient, si je ne me trompe pas, est née en...
Je ne sais pas si elle n'est pas née en Sibérie.
J'ai un doute
mais maintenant. Mais elle est venue de Biélorussie.
Ouais, voilà.
De Biélorussie, ouais. Je crois. Je crois bien qu'elle est née en Sibérie.
En tout cas...
Et elle n'est pas directement d'Arménie. Par contre, elle parle l'arménien oriental.
C'est ça.
Ouais.
Voilà. Et elle est arrivée en France et elle est avec... quelqu'un qui est français, qui fait du piano et percussion, il me semble.
Il joue de la trompette aussi.
Multi-instrumentiste.
Voilà, c'est ça.
Voilà, donc c'est assez cosmopolite et elle chante en arménien notamment. Et donc, tout ça pour vous dire que vous organisez une conférence ce vendredi sur...
ça ne va pas être la Daniva qui sera présente.
Non, mais c'est la langue qui sera présente.
Ah oui, la langue arménienne.
Vu que c'est une conférence sur l'alphabet arménien.
Ouais. Alors le titre, c'est « L'alphabet arménien dans tous ses états », qui sera présenté par Vahagn, qui est un prénom arménien, Vahagn Philippe Ouzounian, qui nous vient de Tours. Et il présentera cette conférence. Et pour la première fois, on aura l'occasion d'être en présentiel, mais aussi sur Zoom. Donc, des personnes qui seraient intéressées de voir la conférence et n'habitant pas Grenoble et n'étant pas libres pour se déplacer, pourront voir pour la première fois cette conférence. Alors, la conférence qui porte sur l'alphabet arménien est un alphabet très spécifique, lié uniquement à la langue arménienne. Et elle a été créée en 405 après Jésus-Christ par un moine qui s'appelait Mesrop Mashtots. Et il a tellement bien étudié les caractéristiques de ces lettres de l'alphabet qu'en fait, la langue a très peu évolué au cours du temps. Dès l'origine, il a créé 36 lettres pour pouvoir écrire en une seule lettre les tse, je, tse, différents sons que nous n'avons pas, nous, dans la langue française. Et Et c'est au XIIIe siècle, je pense, que trois lettres supplémentaires ont été ajoutées. Depuis, la langue a peu évolué. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'arménien classique, que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les cérémonies religieuses. Au moment de la messe arménienne, elle est chantée en arménien classique. Mais sinon, voilà, l'arménien, la langue arménienne utilise toujours ce même alphabet, aussi bien pour l'arménien oriental que pour l'arménien occidental.
Et donc, il n'y a pas eu d'évolution ?
Il y a très peu d'évolution.
Que ce soit dans les sons ou dans les mots ?
Dans les sons, non. Dans les mots, la langue évolue. À l'époque, il fallait trouver un mot pour dire ordinateur. Donc, voilà, il y a des mots qui évoluent avec le temps. Oui. Mais dans la structure grammaticale, il n'y a pratiquement pas de changement. Et entre l'arménien, c'est une langue à déclinaison. Donc entre l'arménien oriental et l'arménien occidental, on ne décline pas tout à fait les mots de la même façon. La langue arménienne occidentale qui vient de Turquie est imprégnée aussi de mots turcs dans la langue courante. Et idem pour l'arménien oriental, qui, elle, cette langue-là, est imprégnée de mots russes.
En effet.
Dans la langue, ouais.
Et donc, dans cette conférence, qu'est-ce qu'on va avoir concrètement ?
Donc, il va parler justement de l'évolution de cette langue et de l'alphabet et replacer cet alphabet, la création de cet alphabet et la langue arménienne dans l'identité arménienne. Parce que c'est un des fondements les plus importants avec la langue qui a été utilisée, avec cet alphabet, qui a permis quand même de diffuser la culture arménienne et la religion. À l'époque, cette religion que l'on appelle religion apostolique arménienne.
Oui. Il faut rappeler que les Arméniens sont les premiers chrétiens d'Orient, chrétiens tout court, j'ai un doute là.
Alors les Arméniens, ce sont les premiers à avoir adopté la religion chrétienne comme religion d'État. Ce ne sont pas les premiers chrétiens, simplement ça a été reconnu comme religion d'État par le gouvernement. Et là, c'était les premiers. Bon, ils ont été suivis par Rome assez rapidement après, une trentaine d'années après. Donc voilà, mais les Arméniens se plaisent à dire que c'est le premier pays à avoir opté pour cette religion d'État. À l'époque, État et religion étaient liés. Donc voilà.
Et en quoi cette langue est importante à diffuser toujours maintenant ?
Alors à l'époque, l'Arménie actuelle, ex-soviétique, était, après le génocide, enfermée dans le giron de l'URSS. Donc là, il n'y avait pas de possibilité d'aller sur place, pas beaucoup de moyens touristiques, de rendre visite à de la famille. Donc comme je disais précédemment, les Arméniens se sont rattachés à leur culture. Et en fait, la langue, l'alphabet et la religion ont servi symboliquement de territoire. Et c'est ce qui a fait que ça s'est transmis de génération en génération. Mais l'écriture, peu l'utilise aujourd'hui, parce qu'un siècle après, plus d'un siècle après, il reste... Il n'y a pas le développement culturel qui serait nécessaire pour que les nouvelles générations puissent lire l'arménien. Ils essayent de l'apprendre, mais c'est difficile. La langue, idem. La religion arménienne, c'est un peu comme les autres religions chrétiennes, et de moins en moins de participants et de fidèles dans les églises. Donc là, il y a un temps un peu de vacillement. Par contre, l'Arménie ayant ouvert ses frontières, il est beaucoup plus facile d'aller en Arménie qu'avant, depuis l'indépendance. Ce qui permet à tout Arménien qui a envie de retrouver ses origines et sa source peut aller en Arménie. Et là, dès qu'on arrive sur le territoire arménien, on ressent profondément toute la culture, tout ce qui nous a été transmis par les grands-parents, les parents, C'est sur la terre d'Arménie que l'on peut retrouver sa culture et refaire vivre ces trois éléments importants et de son identité.
Et comment, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir un meilleur développement culturel ?
Aujourd'hui, la situation est complexe en Arménie. Depuis 2020, l'Arménie a connu plusieurs moments de guerre avec l'Azerbaïdjan et se retrouve assez fragilisée. Les derniers événements datent du 19 septembre 2023, où en fait les Arméniens du Haut-Karabakh ont perdu ce territoire et se sont enfuis pour ne pas être tués et se sont dirigés en Arménie. Donc il y a environ 120 000 personnes qui ont quitté ce territoire, arrivées en Arménie. L'Arménie est très perturbée, à la fois par l'arrivée massive de cette population, mais aussi par les craintes qui règnent toujours aujourd'hui sur des demandes de l'Azerbaïdjan de créer un corridor qui permettrait de relier la Turquie à l'Azerbaïdjan en coupant l'Arménie, de récupérer éventuellement tout un grand territoire englobant Erevan, la capitale, et une partie du lac Sevan, puisque la parole de l'État azerbaïdjanais dit que ces territoires ont toujours été azéris, donc ça serait un juste retour des choses.
Ce qui est du négationnisme, on peut le dire.
On peut le dire, oui, parce que les Arméniens sont d'une civilisation de plus de 3000 ans, et ont toujours habité sur ce territoire-là.
C'était l'Azerbaïdjan. L'Empire de Cilicie ?
Ah non, ça, l'Empire de Cilicie, c'est une autre partie qui date du Moyen-Âge, okay. Et qui se trouvait en Turquie, au sud de l'Anatolie. Là, il s'agit des Arméniens actuels, hein, de l'Arménie actuelle de l'ex-URSS. Et voilà, les Arméniens ont une civilisation de 3000 ans. L'Azerbaïdjan, c'est un pays qui a été créé en 1920-21 avec la révolution bolchevique. Sinon, l'Azerbaïdjan n'existait pas. Aujourd'hui, il y a plus d'Azéris en Iran qu'en Azerbaïdjan. Donc l'Iran est très inquiète quand il y a un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, parce qu'elle craint que les Azéris de son pays, d'Iran, demandent leur rattachement à l'Azerbaïdjan aussi. Donc toute la zone, cette zone du Sud-Caucase, est vraiment une zone très fragile et aujourd'hui assez tendue. Il y a bien sûr le problème entre Israël et la bande de Gaza. Il y a le problème entre la Russie et l'Ukraine. Il y a ce conflit ancestral de l'Azerbaïdjan avec l'Arménie, ou du moins le Haut-Karabakh, mais l'Arménie aussi. Donc on est vraiment dans une région du monde, au niveau géopolitique, c'est complexe. Et il y a sans doute des intérêts fortement financiers, économiques, dont on ignore les détails, mais qui sont à l'origine de ces conflits.
Et donc à la base, la question c'était pour le développement culturel, mais en ce moment, vu la situation, c'est un peu compliqué. Est-ce que les artistes arméniens devraient essayer de s'emparer de ce sujet-là pour soulever une cause ?
Ce qu'on remarque, c'est que chaque fois qu'il y a un pays qui est en difficulté, ce sont les artistes qui tiennent le flambeau et qui continuent à présenter la culture et à soutenir. Là, par rapport à l'Arménie, il y a certains artistes qui se sont engagés et qui ont soutenu l'Arménie. Mais aujourd'hui...
Et vous avez des noms d'artistes ou...
Ben, on a écouté David Aroutounian, par exemple, il a écrit des textes. Il y a Simon Abkarian qui s'est impliqué, André Manoukian, et puis bien d'autres. Hein. C'était un collectif, peut-être Amazian aussi. Tigrane Amazian ou d'autres dont le nom ne me revient pas. Mais les artistes ont toujours eu un engagement particulier dans tous les peuples. Au moment où il y a des difficultés, c'est les artistes qui tiennent ce flambeau, c'est important.
Ouais. Et donc, pour revenir avec cette conférence sur l'alphabet arménien dans tous ces états, vous pouvez retrouver vendredi soir.
Oui, c'est
vous
ce vendredi.
Vous avez l'horaire.
Alors, c'est vendredi 19. Qu'on ne se trompe pas, c'est bien ce vendredi 19 à 19h. Alors, en présentiel à la Maison des Associations. Et puis ceux qui veulent voir en visioconférence, il y a aussi cette possibilité. Vous pouvez nous contacter par mail. Je donne l'adresse de la messagerie. C'est AEP, qui est en fait les trois lettres de le nom de l'association, Arménie Échange et Promotion. Donc, je reprends aep.grenoble38@gmail.com.
Parfait. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous et merci à la radio.
Merci à Alice pour la technique. On se laisse avec un petit morceau de Mariné Mination. Et merci à toutes et à tous. À la prochaine.
Sur le 90.8. sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.